Alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitania. Alors aujourd'hui je reçois Dominique Delpirou, bonjour.
Adiciates.
Ah, bien, bien. Et pour son livre, Le labyrinthe des légumes, édité aux éditions Les Cahiers du Sud, un éditeur marseillais, n'est-ce pas? C'est ça. Et comme à l'accoutumée, avant donc de rejoindre Dominique Delpirou qui nous parlera de lui et puis donc de son livre, quelques petites infos. Alors, la semaine prochaine, ne l'oubliez pas, nous sommes jeudi de l'Ascension, donc il n'y aura pas d'émission Page à Page, mais nous nous retrouverons jeudi 24 pour écouter la lecture de la nouvelle de Julien Campredon intitulée « Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes », une lecture qui sera effectuée par Mathieu Zabé. Et puis, à la librairie Ombre Blanche, mercredi 16 mai à 18h, la librairie Ombre Blanche, toujours 50 rue Gambetta, une rencontre avec Alain Monnier pour son dernier livre édité chez Flammarion, intitulé « Notre seconde vie ». C'est une rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau et que j'avais reçue, vous vous rappelez, pour le salon de Balma le 29 mars dernier. Donc, mercredi 16 mai à 18h à Ombre Blanche, vous pouvez découvrir le nouveau livre donc d'Alain Monnier. Et puis également, à la librairie Privas, quand c'est pas l'une, c'est l'autre, qui se situe, elle, 14 rue des Arts, mercredi 23 mai à 16h, un tableau-spectacle de Mercedes Pujol pour les enfants de 3 ans à 8 ans. Alors, Cybèle est inspirée du conte de Podane. Et ce spectacle pour enfants raconte le corps qui grandit, l'apprentissage à vivre loin de ses parents et puis l'amour d'un prince pour une princesse, évidemment. C'est toujours le grand rêve des petites filles, des petits garçons. Donc, c'est le mercredi 23 mai à 16h à la librairie Priva. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement. L'accès est libre et gratuit, bien entendu. C'est le 05 61 12 64 34. 05 61 12 64 34. Et puis, je vous donne encore une information. Donc, pour la librairie Priva, toujours, c'est le lendemain, le jeudi 24 mai, mais à 18h, une rencontre avec un écrivain que vous connaissez certainement. Vous avez déjà certainement lu des livres de Didier Van Kovelaert. Donc, pour son dernier roman qui s'appelle Le Père adopté, qui est publié aux éditions Albin Michel. Donc, c'est un roman pudique et émouvant de l'amour pour un père. Donc, je vous rappelle que Didier Van Kovelaert a écrit de nombreux livres dont l'évangile de Jimmy, Un aller simple ou L'éducation d'une fée. Donc c'est jeudi 24 mai à 18h à la librairie Priva. Et puis je termine ces petites infos avec le vendredi 25, décidément tout se suit, hein, 23, 24, 25. Donc le vendredi 25 mai à 20h30 à la maison des associations de Naïoux, une veillée occitane avec des contes occitans et en occitan par Maurice Andrieux. Donc c'est une info qui nous vient de Julien Campredon, qui justement travaille à la bibliothèque de Naïoux. Donc c'est vendredi 25 à 20h30, si vous avez envie d'écouter des contes en occitan par le célèbre Maurice Andrieux, eh bien venez les rejoindre à la maison des associations. Voilà.
Page à page, Claire Ambille.
Eh bien, je me retourne vers mon invité, donc Dominique Delpirou. Alors bon, vous êtes connu sur Toulouse puisque vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi, notre journal toulousain.
Tout à fait.
Depuis 28 ans.
Ben oui, journaliste depuis 28 ans à la Dépêche du Midi.
Voilà.
Ça use.
Ben non, mais c'est bien. Donc vous avez commencé avec la chronique des chiens écrasés, puis finalement là
tout
maintenant.
Tout à fait.
Vous
j'ai
êtes...
fait pendant 5 ans, j'ai fait la chronique des faits divers et donc je passais mes journées dans les commissariats et dans les gendarmeries. Alors à l'époque, c'était très différent de ce que c'est aujourd'hui. C'était un peu plus tranquille, un peu plus familial, je dirais presque.
Plus familial.
Ouais.
Oui, puis votre père était commissaire de police aussi.
Oui, oui.
Donc vous avez baigné un peu dans... Oui, voilà. Oui, vous avez baigné un peu dans cet
univers. Ah oui, j'ai grandi dans les commissariats, moi.
Oui, donc ça explique peut-être le goût pour les polars.
Ça explique peut-être le goût pour les polars.
Ouais. Voilà.
Tout petit, je me baladais dans les commissariats entre les vieux gardiens de la paix en képi. Et c'était assez impressionnant de les voir, surtout avec leurs armes, ça me faisait un peu peur.
Peur, puis, ou ouais, au contraire, ben, ça vous... Ça...
Ah non, ça m'effrayait
non
un peu.
Ah ouais.
Et puis il y avait aussi les geôles, le newf. De temps en temps, mon père me disait, si tu fais le con, tu vas voir. Alors, c'était des endroits très, très inquiétants, effectivement, quoi, où on y foutait à l'époque. Je me souviens, quand j'étais tout petit, dans les années 60, on y mettait la plupart du temps les clochards ou des traînards dans les petits commissariats.
Ou les prostituées, peut-être, aussi, non
j'en ai pas vu quand j'étais gamin, mais... Mais je me souviens effectivement de ces endroits qui m'inspiraient la plus grande terreur.
Donc, vous êtes né à Strasbourg, Dominique Del Pirou.
Oui.
Mais bon, vous êtes depuis 35 ans à Toulouse, donc on peut dire que vous êtes...
Un Toulousain. J'ai même pris l'accent. Alors.
Ah, voilà.
J'ai pas appris l'occitan.
Bon, ben non, mais moi non plus, mais il faut pas le dire. Hein, donc, et donc, vous avez suivi plutôt des études de droit.
Et voilà, je suis un juriste.
Un juriste.
Oui.
Et donc après, ça vous a amené donc au journalisme.
Voilà, tout à fait. Ça m'a amené au journalisme. C'était une profession que je rêvais de faire, et voilà. Et donc je l'ai fait. Donc je suis heureux.
Et donc c'est l'écriture, ça a été toujours présente dans votre vie depuis tout petit, parce que bon, bah, études de juriste, on écrit quand même beaucoup, après le journalisme évidemment, et puis même tout petit, vous écriviez déjà...
À tout petit, j'écrivais déjà des histoires.
Des histoires.
Plus exactement, quand j'étais au collège, j'ai fondé mon premier journal à 12 ans.
Ah oui, c'était un journal du collège.
De BD, mais j'ai fondé mon premier journal à 12 ans, ça s'appelait Gros Bux. Et donc, ça racontait des aventures d'un super-héros qui était un peu décalé. Et puis, il y avait des jeux, c'était un peu...
Il y avait des blagues aussi.
Il y avait des blagues, des trucs comme ça. et voilà. C'était à l'époque un peu contestataire, parce que c'était en plein dans les années 68. Et donc, c'était un journal... un peu contestataire pour un gamin de 13-14 ans, quoi. Et puis après, toujours en seconde, j'ai refait un deuxième journal de classe. Et puis après, quand je suis arrivé en première, c'est là où j'ai eu une rencontre importante dans ma vie. J'ai rencontré Serge Peille, le grand poète, qui animait le club poésie de Berthelot. Et donc, au club poésie de Berthelot, je crois que ça a été un moment fondateur pour moi, pour ma carrière littéraire. Et
ça vous a donné un déclic,
voilà,
vous avez eu envie d'écrire, des histoires et pas
des histoires, de la poésie, des histoires, des petites histoires, des grandes histoires, et voilà. Mais ça a longtemps été un jardin secret parce que, effectivement, autant on peut rêver d'être journaliste ou écrivain ou des choses comme ça. Autant on se destine plutôt à devenir fonctionnaire ou...
Oui, des choses
donc
plus concrètes,
voilà,
on va dire.
Voilà pourquoi je me suis retrouvé à faire des études de droit très, très
c'est
lâchement.
C'est lié à votre papa, peut-être, qui m'a obligé.
Voilà. Très lâchement à faire des études de droit, mais je ne le regrette pas du tout parce que ça m'a appris plein de choses.
Oui, sûrement la maîtrise des mots, parce que bon, enfin la maîtrise de des phrases, des mots, de la concision.
De toute façon, faire des études supérieures, c'est jamais une mauvaise chose.
Oui,
quoi.
Ça apprend forcément.
On apprend plein de choses.
Ouais.
On a les études juridiques, ça donne quand même une ouverture sur la société, sur le monde, sur l'histoire. Moi,
tout à
qui suis passionné d'histoire, ça m'a
une culture générale.
Voilà, la culture
plus
générale.
Riche que,
ça peut pas
voilà.
faire de mal.
Et donc vous avez écrit votre premier roman entre guillemets, pas forcément pas de guillemets donc
à la
votre
machine
premier
écrire.
Roman à l'âge de 18 ans, voilà, bon qui n'a pas été publié, mais voilà.
Ah
ben
j'ai pas osé
écrit,
le publier parce que c'était une histoire de science-fiction où des héros tout à fait ordinaires ceux-là partaient dans un vaisseau spatial pour sauver l'univers.
Ah oui.
Et c'était un vaisseau spatial un peu particulier parce que l'un des ingénieurs était alcoolique, donc on avait rempli l'aile droite avec du vin rouge, l'aile gauche avec du vin blanc. Et finalement, ils étaient complètement bourrés dans.
Tout le monde a fini bourré dans le vaisseau spatial.
Alors il y avait et puis il se passait des choses bizarres, c'est-à-dire que les gens devenaient transparents.
Oui,
ils perdaient leur consistance et tout. Donc, mais ils ont réussi à sauver le monde quand même.
Ah, voilà. On est heureux de l'apprendre malgré tout.
Malgré tout, ils ont réussi à sauver le monde.
Donc puis après, vous en avez écrit d'autres, hein, mais bon, vous avez laissé un peu dans les tiroirs. Hein.
Voilà, après on tente d'écrire un truc, et puis on se lance, et puis on sait pas où on va, et puis on laisse tomber.
Donc on le met dans le tiroir, et puis on
attend. On le met dans le tiroir. J'ai écrit un autre roman. J'avais d'abord écrit une nouvelle, pareil, à 20-22 ans, et puis je l'ai transformée, je l'ai allongée en roman. C'était une histoire. C'était une histoire racontée par une voiture. C'était un huis clos.
D'accord.
Racontée par une voiture.
C'est la voiture qui parlait.
C'est la voiture qui parlait. D'accord. Et en fait, c'était un type qui était en déprime. Et on suivait la déprime de ce type à travers
la voiture.
La voiture, puisque pour expurger sa déprime, il prenait sa bagnole, il roulait.
Et puis il roulait sans but.
Voilà, sans but.
Heures.
Et il lui arrivait des aventures piteuses, toujours dans sa voiture. Et voilà, il vivait, il dormait.
C'est original, je trouve.
Oui, mais enfin, bon, ça n'a pas eu l'heure de pleurs.
Aux éditeurs.
Aux éditeurs, de Guerlas. Je l'ai remis dans ma culotte. Et voilà.
Bon. Mais alors donc vous avez écrit donc avant le labyrinthe des légumes dont on va parler dans quelques instants, vous en avez écrit un quand même qui lui a été publié, c'est Félix Rex.
Félix Rex, oui.
Voilà, donc qui est un pareil chez le même éditeur, hein, les Cahiers du Sud, et là qui se passe un peu dans un port de l'Atlantique. Donc c'est assez flou finalement.
Voilà, c'est une ville imaginaire parce que
j'ai pas
voulu.
Une ville imaginaire. Enfin bon, un port de l'Atlantique, il y en a.
Oui, il y en a.
Voilà, bon, c'est pas lequel.
Moi non plus, d'ailleurs.
Bon, ça s'est pas imposé à votre plume
Non, c'est-à-dire que j'avais envie d'écrire une histoire un peu gothique. Et j'avais envie d'inventer un décor, quoi. Donc, un grand port de l'Atlantique, mais j'avais vraiment envie de l'inventer. J'avais vraiment envie quand on écrit une histoire, il y a déjà pas mal de contraintes.
Oui,
sur plein de choses.
Bah, vous dites que le polar, c'est un exercice imposé, parce qu'il faut une énigme, des personnages, et puis un rythme, et puis du suspense. Donc c'est sûr qu'il faut, c'est pas comme un roman, je sais pas, d'amour, ou je ne sais quoi, c'est sûr que là, il y a quand même des choses qui sont imposées, quoi.
Voilà.
On n'écrit pas un polar comme ça.
Non. Mais là, donc, la ville, là, c'est une ville totalement inventée. Alors déjà, on dit, mais c'est peut-être La Rochelle, c'est peut-être Nantes, c'est peut-être Le Havre. C'est rien de tout ça, j'en sais rien, ça n'existe pas.
Puis à la limite, quelque part, ça n'enlève rien à l'histoire, le fait de ne pas le savoir.
Mais je crois, oui.
Ça laisse, voilà. Après, on peut imaginer ce qu'on veut.
Il y a des choses totalement imaginaires auxquelles on croit très fort. Quand on lit Le Seigneur des Anneaux, où il n'y a absolument rien, il n'y a pas un gramme de réalisme là-dedans. Alors, je ne fais pas de comparaison immodeste, hein, mais c'est quand même un univers extrêmement riche, complet, cohérent, et c'est vachement intéressant à un moment donné de susciter, de créer un univers riche, complexe, cohérent, auquel on croit, dans lequel on se repère, dans lequel on se retrouve. C'est très intéressant, ça, de créer des univers.
Oui.
C'est vachement la mode, hein. Quand on regarde les jeux vidéo, Lara Croft, etc. Il y a une tendance justement à recréer des univers, ou dans Sin City ou des choses comme ça, on recrée des univers. C'est intéressant d'inventer tous ces univers virtuels parallèles et qui pourtant finissent par avoir une vraie vie.
Bon, oui, tout à fait.
La ville a une vraie vie.
Oui, c'est vrai. Et donc vous aimez Edgar Poe, vous aimez Conan Doyle, vous aimez Agatha Christie, Maurice Leblanc, Lovecraft justement, et Jean Rey aussi.
Voilà, oui, tout ça.
Vous aimez tous ces auteurs un peu
gothiques, je dirais gothiques.
Oui,
quoi,
parce qu'Edgar Poe, c'est vraiment c'est particulier.
Mais Edgar Poe, il bénéficie de la plus belle plume de la littérature française quand même. Hein. C'est parce qu'il a été traduit par Baudelaire.
Oui, ça, on l'étudie même encore actuellement dans les collèges.
C'est une sacrée celui-là, quand même, d'avoir été traduit par Baudelaire.
La maison Huchère, moi, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque.
Oui.
Cette maison, ça faisait presque peur, même en lisant. Rien qu'en lisant, des frissons. Quoi.
Certains textes d'Edgar Poe qui sont...
Oui, c'est effrayant.
Arthur Gordon Pym, ça. Vraiment, ça donne des frissons. Lovecraft, c'est encore plus, hein, mais bon.
J'ai pas lu. Il faudra que je lise alors si je veux me donner un peu de sensations fortes.
Démons et merveilles, il faut s'accrocher. Hein.
Oui. Et donc, ça vous a inspiré un peu. Enfin, genre, vous êtes plus polar que.
Alors voilà.
Roman historique ou roman.
Oui, enfin.
Aventure ou. Vous êtes quand même assez axé sur le polar.
Oui, j'aime bien
l'intrigue,
les énigmes, j'aime
les
bien
énigmes, le secret, les choses qui se découvrent au fur et à mesure.
Tout à fait, oui.
Et puis, et vous aimez aussi les bibliothèques, donc le livre, c'est important pour vous, l'écriture, mais bon, vous lisez beaucoup certainement aussi.
J'adore, oui, voilà. Le livre est un objet culte pour moi. Il y a peu d'objets qui ont cet impact sur moi, je ne sais pas pourquoi, mais le livre, vraiment, c'est quelque chose qui... J'ai un respect naturel pour le livre et un amour naturel pour le livre. C'est le seul objet, je crois, qui peut-être avec certains fossiles de dinosaures qui peuvent provoquer chez moi cette même émotion. Mais autrement, les autres objets du monde ne m'intéressent pas.
C'est le seul objet que vous emmèneriez sur une île déserte si vous deviez y passer votre vie.
Oui, alors là, j'en emmènerai quelques-uns.
Et donc les bibliothèques.
Les œuvres complètes de Tolstoï.
Ah oui, voilà, vous avez de quoi lire. Hein.
Oui.
Donc, on va parler, donc c'est votre deuxième livre, Le labyrinthe des légumes, après donc Félix Rex.
Oui.
Donc Félix Rex, peut-être qu'il y aura une suite.
Et elle est écrite, elle est partie chez Monsieur et Madame Les Cahiers du Sud, qui devrait la publier.
Donc,
est écrite.
Très bien, donc il y aura la suite des aventures de Camille, qui a grandi, mûri, etc., avec tout ce qui va avec. Et donc là, c'était un peu un entre-deux, quoi, le labyrinthe des légumes, c'était entre ces deux livres.
Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Félix Rex, c'était un livre qui, quand je l'ai écrit, n'était pas forcément destiné à avoir une suite, mais c'est quand il a été publié que les gens m'ont dit « mais il faut écrire la suite ».
Oui, parce que la fin était un petit peu, laisser supposer que...
C'est les lecteurs qui m'ont dit « mais il faut écrire la suite ». C'est eux qui m'ont poussé à écrire la suite, en disant « mais ce personnage de Camille est super, il faut
le développer, le faire grandir, évoluer dans la vie. »
Et en fait...
Vous aviez déjà commencé à écrire Le labyrinthe des légumes.
Oui, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai écrit Félix Rex, mon premier bouquin, et le moment où il a été édité, il s'est passé 8 ans.
Oula.
Donc j'ai eu largement le temps d'écrire Le labyrinthe des légumes entre-temps. Voilà.
Ah oui. Donc, c'est le parcours du combattant pour éditer. Quoi,
voilà, c'est
le
ça.
Dire, quoi. C'est toujours le même problème. Il y a beaucoup d'auteurs, mais malheureusement, pour être édité, publié, c'est difficile. C'est dommage, hein, parce qu'il y a certainement beaucoup de talents cachés, de petits bijoux qui sont quelque part.
J'en suis persuadé, oui.
Et c'est vraiment dommage.
Et puis, il y a des choses qui sont éditées qui n'en valent pas la peine.
Voilà, tout à fait. C'est vrai. Et il vous a pris combien de temps à écrire Le labyrinthe des légumes?
4-5 ans, quand même. Facilement, oui.
Donc, le labyrinthe des légumes, on va dire un petit peu le lieu. Donc, je rappelle que c'est donc les Cahiers du Sud, l'éditeur. Hein, l'éditeur, c'est bien ce que je dis. Si les auditeurs veulent se le procurer, dans tous les magasins de livres, il y est.
Ah oui, on trouve partout.
Dominique Delpirou, Le labyrinthe des légumes.
Enfin, on le trouve partout à Toulouse. Paris, il faudrait peut-être le commander, mais à Toulouse...
il y est.
Il y est, à Librairie Ellipse, à Fnac.
Donc, c'est un polar de 300 pages, hein, quand même.
Oui.
Et oui. Donc, avec un style, moi, j'ai mis style limpide. C'est vrai que moi, j'ai bien aimé. C'est un style, on comprend bien. Sûrement, votre style journalistique doit s'y retrouver. On comprend bien ce que vous écrivez. C'est, pour un polar, c'est important parce que si on commence à s'en mêler les pinceaux en lisant, au moins, tout est clair, quoi. C'est limpide.
Quand on est journaliste, on a intérêt à être compris par les lecteurs.
Ben oui. Donc là, tout est concis, bien échelonné, quoi, et on découvre au fur et à mesure donc toute la trame de l'histoire. Donc ça se passe dans une maison spécialisée pour handicapés mentaux, ce qui est assez original dans le sens où il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de cet univers assez particulier quand même, il faut le dire.
Mm-hmm.
Les personnages sont attachants, hein, la grosse Odette, Monsieur Franny,
c'est
des personnages dont on se rappelle même en ayant refermé le livre, hein, parce que on en a forcément croisé, hein, un jour ou l'autre, que ce soit dans un établissement spécialisé ou dans la rue. Donc je trouve déjà que le lieu est original. Et puis vous abordez aussi le thème de l'homosexualité féminine, ce qui est quand même assez original aussi dans un livre, encore plus dans un polar. Et Et puis, il y a un peu de la mythologie aussi. Il y a de la mythologie dans votre polar aussi.
Il y a beaucoup de choses, oui.
La fin est assez surprenante, oui et non, mais enfin, assez surréaliste.
Oui, on peut dire ça aussi.
Voilà.
Oui.
Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et puis là, bon, vous situez quand même les lieux. Ça se passe vers Clermont-Ferrand.
Voilà. Mais là aussi, c'est une ville imaginaire. Quoi, hein, voilà.
Oui, voilà, les noms, j'imagine, n'existent pas, mais bon, voilà. C'est quand même situé au niveau de la région.
Oui.
Et puis, il y a des scènes qui se passent à Toulouse, quand même, où là, où vous citez Saint-Cernin, les Jacobins, le Quai de la Dorade. C'est bien précis.
C'est une incursion toulousaine.
Voilà, vous avez eu envie de rendre hommage un petit peu à la Ville Rose dans ce livre, un petit clin d'œil.
Voilà, un petit clin d'œil.
Un petit clin d'œil, en étant toulousain, quand même, en étant devenu toulousain, de faire un petit clin d'œil à cette ville.
Voilà, oui, c'était un petit clin d'œil, on peut dire ça comme ça, oui.
Et donc, ce roman, donc, je ne sais plus où j'en suis, oui, les personnages, donc le personnage principal, c'est Ariane, alors là, c'est pareil, mythologie,
ah, oui,
le
oui,
fil
oui.
d'Ariane,
oui, oui.
D'ailleurs, qui se déroule tout au long du livre, hein, puisque c'est l'héroïne principale, et puis son ancien prof d'histoire, qui se retrouve, plus du tout prof d'histoire.
Hein, non, le pauvre, il se retrouve plutôt un coup sur la tête,
il se retrouve justement dans cet établissement spécialisé.
Ouais.
Et puis il y a Georges aussi, le vieux journaliste, qui lui laisse faire les photos pour certains articles.
Oui.
Donc vous y mettez un peu aussi de votre vécu, enfin de votre actualité.
Bien sûr, tout à fait. Mais c'est évident que un livre, ça se construit, ça se nourrit avec toute une vie derrière. Donc il y a des choses qui c'est du coup il y a des choses qu'on absorbe, qu'on absorbe au cours de l'existence et puis qui sont restituées comme ça. Alors transformées, cuite et recuite, c'est une ratatouille, c'est une soupe de légumes, quoi. Voilà, on met tout ça dans une cocotte minute et puis on laisse mijoter. Et puis il y a des choses qui émergent, et puis il y a des personnages qui viennent comme ça.
Puis des choses qui s'imposent, comme l'homosexualité féminine. Voilà, c'est un peu imposé.
C'est une chose assez curieuse, quoi. Quand on écrit, on prépare son bouquin, on prépare un plan très 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 strict. On essaye parce que comme c'est une mécanique aussi, il faut pas se couper, donc on essaie de faire un truc bien cadré. Et puis à un moment donné, on se rend compte que les personnages de temps en temps vous échappent. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec Ariane et Thérèse, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait des choses devant moi que j'étais obligé de rapporter. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est bien... Pourquoi est-ce que tu écris ça? Pourquoi est-ce que tu écris qu'à un moment donné, Thérèse veut embrasser Ariane? Est-ce que tu n'es pas en train de projeter tes propres fantasmes? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis après, je me suis dit, mais non, c'est tout à fait logique dans le cadre de l'histoire. Et en fait, je crois que le fait de laisser mûrir une histoire en soi comme ça, il y a des choses qui sont, quand on prépare tout ça ensuite dans la structure du livre, il y a des choses qui sont conscientes et puis il y a des choses qui sont inconscientes. Mais cet inconscient, il ressort à travers le comportement des personnages.
Oui, c'est possible, oui, certainement.
Et donc les personnages, à un moment donné, ont des comportements
qui échappent un peu à la plume
voilà, qui échappent un petit peu à ce qu'on...
Au créateur, quoi.
Voilà, au créateur, et on se dit, tiens, bon, et puis pourquoi pas, et puis voilà, les choses... Et puis on se rend compte après qu'il y a quand même une cohérence. C'est-à-dire qu'on ne crée pas impunément des personnages, on les façonne, et puis à un moment donné, il faut qu'ils vivent. Et cette vie, dans les petits détails de quand on écrit l'histoire, il y a des attitudes, il y a des choses, des façons de parler qui s'imposent. On se donne tellement de règles au départ, il faut que tel personnage il soit cohérent avec lui-même.
Oui, c'est déjà imposé.
Il faut qu'il parle comme ça.
C'est imposé,
celui-là, il faut
voilà.
qu'il parle comme ça, qu'il ait ce type de comportement. Il a ses tics, il a ses façons de parler, il a ses rites. Et chaque personnage aussi est bâti comme ça. Et donc, à un moment donné, ces personnages, on doit suivre leur logique. Voilà.
On va lire la quatrième je vais lire la quatrième de couverture, puis on a juste peut-être le temps de lire quelques lignes pour donner un petit peu idée de votre style. Donc, le labyrinthe des légumes, c'est les peupliers. Un mouroir pour handicapés mentaux profonds, coupés du monde et de la vie. La vie, justement, Ariane en déborde, et ce premier boulot d'assistante médico-pédagogique va lui permettre de découvrir toute l'humanité de ces handicapés. pas comme les autres, et de se découvrir elle-même. Réussira-t-elle en outre à percer le secret de Michel Trezen, son ancien professeur d'histoire, plongé dans un mystérieux coma ? Voilà, c'est vrai qu'ils sont attachants, les personnages, hein, ils sont, voilà. Et puis c'est vrai qu'ils débordent d'humanité, hein, c'est pas, ça, la différence, est traitée, là aussi, le thème de la différence, je trouve ça très, très intéressant.
Oui, merci.
Ça montre un peu que voilà, ils sont différents, mais ils sont humains malgré tout, et certainement peut-être plus humains que certains de
de nos. C'est une de mes obsessions, quoi, l'altérité, quoi.
Oui.
Qui est humain et où est-ce qu'elle est l'humanité, quoi.
Oui.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on se retrouve avec les deux méchants de l'histoire, là, on se rend compte que chez eux, l'humanité est absente.
Oui, est absente, voilà, complètement.
C'est-à-dire que pour eux, il y a eux, et puis en face d'eux, il n'y a pas d'être humain, quoi. Il y a des objets.
Voilà. Alors que tous ces résidents, là, dépeupliés, ils ont.
Il y a la compassion.
Ils aiment Ariane. Enfin, je veux dire, il y a une complicité qui se lie malgré, bon, ben, le fossé, leur différence. Mm-hmm. Il y a des liens quand même qui se nouent. Elle les photographie. Enfin, il y a tout un travail. Oui. On lit un petit quelques lignes.
Justement, on va lire le premier paragraphe.
Voilà, premier paragraphe du premier chapitre.
Et alors, petite explication, parce que ça va paraître un peu bizarre, mais c'est la description d'une dans un labo photo d'une feuille de photo qui se révèle, quoi. Et en fait, le livre, c'est un livre sur la révélation.
Oui, révélation de la photo, révélation. Enfin, la photo est importante.
Voilà,
dans le livre, tout le long.
C'est pratiquement dans ces quelques premières lignes, toute l'histoire est dedans, quoi.
D'accord. Voilà. Et bon, on écoute.
Voilà. Alors, au début, il n'y a rien. Juste une feuille de papier dans un bain crépusculaire. Puis la première trace apparaît. La courbe devient corps. Très vite, tout se déchaîne. Les millions de molécules d'argent crachent leur noirceur. Au fond du liquide remonte la forme. Elle était cachée dans une neige indolente. Elle surgit, précise, vivante, troublante. Les membres prennent de l'ombre et du volume. On cherche le visage qui se dérobe. Derrière, la géométrie des horizontales et des verticales tombe comme une herse. Le carrelage blanc. Au centre, un corps mort. Un corps froid, un corps nu. Ariane sursaute. Encore ce cauchemar. Elle a rêvé qu'elle tire une photo dans la pénombre d'une lumière rouge. Au fond du bac, c'est sa propre image qu'elle découvre. Elle est nue.
Voilà, ça donne le ton. Donc le personnage principal, Ariane, donc, qui fait des cauchemars. Voilà. Oui. Donc qui fait des cauchemars, qui fait ce cauchemar récurrent, hein, parce qu'on le retrouve tout au
voilà, long. Voilà, et ce cauchemar récurrent, c'est effectivement le nœud de cette histoire.
Tout à fait. Et vous aimez la photo ? Vous faites des photos vous-même ? Parce qu'apparemment,
j'adore ça. Oui,
ah,
bien sûr.
Voilà. Donc là aussi, vous mettez un petit peu de réalité dans votre livre.
Bien sûr.
La photo, voilà, vous aimez ça.
Enfin, j'en fais beaucoup moins maintenant.
C'est bien décrit, c'est bien, tout est bien. Eh bien, Dominique Delpirou, merci beaucoup d'être venu à page pour nous présenter donc Le Labyrinthe des légumes, édité chez Les Cahiers du Sud. Et puis, vous reviendrez donc pour la suite de Félix
Avec Rex. Grand plaisir.
Ça s'appellera
merci,
comment
Alors, le prochain livre s'appelle Légionnaire Victor.
D'accord, mais donc c'est la suite de Félix Rex.
Tout à fait.
Donc, dans combien de temps à peu près?
Au début 2008.
Ah, d'accord.
Mais entre-temps, si je peux me permettre, je vais publier avec mes amis Jean-François Curval et J.O., un petit livre qui est des histoires, des anecdotes d'enfants et de rugby qui s'appelle Les Enfants de la Mêlée, qui sortira au mois d'août aux éditions RS.
Je l'annoncerai, vous me rappellerez le titre et puis je l'annoncerai à la rentrée en septembre, parce que moi en août je serai en vacances. On termine parce que je vois que Greg me fait les gros yeux.
Merci à vous Claire d'inviter les
merci
auteurs,
Dominique.
C'est très gentil.
On se retrouve donc le jeudi 24, hein, pas jeudi prochain, jeudi 24 mai, à Dissiats. Pou pou pitou. Thank you.